Péage sauvage. Direction la petite Amazonie, parenthèse au cœur d'un site bombardé durant la Seconde Guerre mondiale, enclavé à l'aube d'un projet autoroutier peu à peu relégué au profit de la biodiversité. Ici, la nature environnante côtoie le quartier Malakoff et offre depuis peu, dans le cadre de Voyage à Nantes, un observatorium en bois courbé, fracture visuelle entre le sauvage et l'urbain, sur ce site qui peut accueillir près de 64 espèces d'oiseaux différentes. Gert van de Kamp, du collectif artistique Observatorium, collectif venu tout droit de Rotterdam, qui façonne là cette création pérenne Estuaire 2012. Pouvez-vous nous expliquer le sens de cette œuvre dans ce paysage? La première fois qu'on est venu ici, on nous a invités à découvrir le site. Et on a tout de suite été frappé par cette étrange parcelle de nature en plein milieu de la ville. On a appris que c'était un lieu très protégé, que peu de personnes pouvaient y aller. Chaque année, il n'y a que 300 à 500 personnes qui peuvent rentrer sur ce site apparemment.
La petite Amazonie. Et puis, on a aussi entendu l'histoire sur la route, que c'était un plan, une fois dans les 60s, de construire la route.
Quand on y est allé, on a vu ce paysage un peu insolite, avec de l'eau, des plantes, la petite Amazonie. On nous a aussi parlé de cette histoire d'autoroute, du projet d'en construire une dans les années 1960. Au début, on s'était dit qu'on ferait bien quelque chose dans la petite Amazonie, mais on a entendu dire que c'était très difficile d'y aller avec l'eau et le lieu lui-même est protégé. Du coup, quand on est revenu, on a décidé qu'on construirait quelque chose à la frontière de la petite Amazonie. Et on voulait aussi montrer cette histoire d'autoroute, ce paradoxe étrange. Cette idée d'une autoroute qui mène vers un espace naturel protégé est très agréable. On s'est dit qu'on ferait quelque chose avec ça, car si les gens ne peuvent pas aller vers la nature, peut-être que l'on pourrait laisser la nature s'aventurer un peu plus dans la ville. Donc on s'est dit qu'avec cette idée d'autoroute, on construirait une sorte d'autoroute prolongée, grâce à laquelle la nature s'avancerait plus loin. Et c'est aussi une sorte de frontière, parce que la première chose que les Allemands voient quand ils viennent en France, c'est le péage. On voulait donc faire un monument du péage, cette frontière entre la nature et la ville, qui est aussi un endroit où on stagne un peu avec sa voiture, et surtout là où on doit payer.
It's free here. Yeah.
La nature ne vient pas gratuitement, mais c'est vrai qu'ici c'est gratuit.
And the border between the city and the landscape, the nature with the wood.
C'est très important pour vous de constituer cette frontière entre la nature et la ville avec une matière comme le bois. En fait, on savait dès le début qu'on voulait construire une autoroute, mais on tenait à la construire avec une matière naturelle comme celle-là. Et la nature est donc la meilleure chose qui puisse être pour la ville. Oui, surtout avec ce paradoxe de la nature et de l'autoroute. Jean Blaise, instigateur du projet Voyage à Nantes.
Que vous inspire donc cette œuvre, la petite Amazonie?
Une folie dans la nature, hein, c'est quelque chose de Fitzcarraldo. Comment la nature en plein cœur de ville, 7 hectares, se développe et un écosystème est sanctuarisé. C'est très étrange, très étonnant, très poétique, très apaisant aussi, en plein centre de la ville, dans un quartier d'habitat social. Voilà, c'est une façon de proposer un espace de poésie dans une ville, dans une urbanisation sauvage.
Et de redonner sa place à la nature?
Et de redonner sa place à la nature qui doit gagner sur cette autoroute fictive en bois.
Quittons le calme de l'immersion pour une croisière sur le plus long fleuve de France. La Loire dévoile ses mystérieuses installations, le site dépayse et nous livre bien des secrets. Sarrazy crée des sculptures légères et souvent aériennes. Sensible à Port-la-Vigne, domaine naturel préservé, l'artiste y transpose sa vision d'un retour au sauvage. La nature se manifeste ici pleinement, au détour d'ombres perchées.
Pour l'artiste, elle participe à un transfert de réalité, elle joue avec l'idée d'un désir de retour à la nature, au sauvage et aux principes fondamentaux. Elle reflète notre désir ardent de localiser ou capturer un moment naturel précieux.
Alors l'œuvre de Sarrazy, elle est composée d'animaux sauvages qui a priori n'ont rien à voir à l'estuaire de la Loire, n'ont rien à faire sous nos latitudes, puisqu'il s'agit d'ours, de jaguars et de singes. Ce qui l'a intéressé dans ce site, c'est la nature sauvage du site, alors qu'on est tout proche de la ville, de l'aéroport, du pont de Chevirée, du port, etc. Et ce qu'elle a repéré, c'est trois grands arbres, chose assez rare sur l'estuaire, où on est plutôt dans des arbres, dans des arbustes, dans des buissons, des roselières, des choses basses, d'une végétation basse. Là, elle a repéré ces trois grands peupliers qui sont assez altiers sur les bords de Loire. Elle a décidé d'adjoindre à chaque arbre une figure archétypale du sauvage. L'ours, le jaguar, le singe. Et chaque animal est représenté dans sa façon de vivre naturelle. C'est-à-dire que les singes sont en colonie, le jaguar est seul, et les ours, c'est une mère ours et son ourson. Ce qui est aussi une sorte de définition du danger, puisqu'on sait que le plus grand danger quand on croise un ours, c'est d'avoir une mère et son ourson, bien sûr. Donc elle joue là-dessus sur notre rapport au sauvage et sur la nécessité sans doute de prendre attention à la nature et d'avoir en tout cas conscience que nous sommes part de la nature. Nous sommes partie intégrante de la nature, qu'on n'est pas au-dessus, mais qu'on doit être avec.
Cette évocation du sauvage, est-ce qu'il y a un lien évidemment avec la Loire, le fleuve ?
Oui, et d'ailleurs on le voit dans les créations 2012 d'estuaires, ce rapport au sauvage est très très présent. Dans l'ensemble des œuvres, on a vu l'arbre mort de Morisseau et Merzic, on a vu le péage sauvage d'Observatorium à Nantes, et c'est sûr que ce territoire incite sans doute à se poser cette question de la nature, puisqu'on est à la fois dans une métropole, c'est-à-dire dans une conurbation urbaine, et en même temps, entre les deux principaux lieux de cette métropole, lieux urbains de cette métropole, Nantes et Saint-Nazaire, on a une zone qui est une sorte de complexité paysagère totale, puisqu'on a des industries qui côtoient une nature extrêmement protégée, où des oiseaux nichent. Faut dire que l'estuaire de la Loire, c'est quand même un des deux grands couloirs de migration d'oiseaux en Europe. Et que donc c'est un lieu très important de protection de la nature.
Dans les œuvres que l'on a pu voir, il y a une forme d'épure un peu qui rejaillit.
Oui, ce sont en même temps, pour la plupart des œuvres, ce sont des œuvres très, très visuelles qui très vite font appel à l'imaginaire. C'est-à-dire quand on est en face de ces œuvres, rapidement, on se raconte une histoire. Et c'est vraiment l'objectif des artistes. Et c'est en général ce qui se passe sur l'estuaire de la Loire. C'est-à-dire que ce territoire, peu à peu, par l'addition de ses œuvres, raconte des histoires. Et en effet, les artistes les racontent de manière très, très pure et incitent d'une certaine façon à la contemplation. Ce sont des œuvres, pour la plupart, méditatives et contemplatives.
Indre, point de traversée du fleuve. Jimmy Durham et son étrange animal industriel fait songer à un véritable serpent de mer. Symbolique du fleuve, il relie les espaces.
Les images qui en nous ne cessent de s'associer semblent agitées par ce tube qui au premier abord nous paraissait banal et qui maintenant évoque irrésistiblement un long serpent. On voit sa tête dressée au-dessus du ponton et on devine que 45 mètres plus loin, sa queue est encore enfoncée dans la vase au fond du fleuve, comme s'il surgissait de la décomposition de ces temps primordiaux.
Image réaliste et poétique, concrète, secrète, silencieuse, cette maison endormie sur la Loire pourrait être un tableau, une peinture en trois dimensions déposée dans le temps, immobile. En offrant cette image, il poursuit le développement de ce qu'il appelle le réalisme imaginaire.
David Moinard, programmateur artistique du Voyage à Nantes.
La Maison dans la Loire, c'est un projet de Jean-Luc Courcoult qui était apparu en 2007 déjà et qui réapparaît, mais plus loin sur l'estuaire, plus proche de Nantes, en 2012. Et l'œuvre de Jean-Luc Courcoult consiste en reproduire à l'identique une maison qu'il a repérée dans un petit village des bords de Loire, Lavaux-sur-Loire, là où il y a l'œuvre de Kawamata, une très belle maison bourgeoise qui s'appelle la Maison du Port, qui aujourd'hui a été ouverte à l'occasion d'estuaires en 2007 en crêperie. qui est toujours ouverte aujourd'hui. Et il reproduit donc à l'identique cette maison du port de La Vaux-sur-Loire et l'immerge dans le fleuve. Et cette œuvre continue un projet qu'il mène depuis des années, à travers Royal Deluxe notamment, parce que Jean-Luc Courcoult est le grand fondateur de Royal Deluxe, qu'il appelle le réalisme imaginaire. Réalisme dans le sens où il s'appuie sur le réel. Là, il reproduit à l'identique, vraiment, une maison existante de l'estuaire de la Loire. Et imaginaire, puisque il la plonge dans la Loire, la penche légèrement, et donc crée une image tout à fait surréaliste, à laquelle on a du mal à croire.
Une image figée, d'ailleurs.
Une image figée, mais qui incite tout de suite à l'imaginaire, à se raconter une histoire. Comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Sarrazy, c'est le point commun entre toutes ces œuvres. Ces œuvres nous racontent quelque chose, nous laissent imaginer une histoire. Que fait cette maison-là? Est-ce qu'elle a été prise par le fleuve lors d'une tempête et elle aurait dérivé du village de Lavaux pour s'échouer ici? Est-ce que c'est la montée des eaux qui l'aurait immergée puisqu'elle aurait été construite, par exemple, trop près du fleuve à une certaine époque? On ne sait pas, mais en tout cas, mille histoires sont possibles. Et c'est ce que souhaite Jean-Luc Courcoult à travers cette image très forte.
Et peut-être revenir sur les fondements même, donc ça c'est pour l'histoire, mais pour l'installation, on est curieux, on a envie de savoir.
Mais la maison, elle est posée sur pieux en fait. Elle est reproduite, les parements sont en résine, c'est une grosse structure métallique et les parements sont en résine. Et elle est d'un réalisme total, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est de la pierre, c'en est pas, puisque la résine dans le temps résiste beaucoup mieux aux effets du fleuve.
Très bien, et c'est une œuvre qui est vouée à être pérenne.
Oui, c'est une œuvre pérenne, exactement. Comme toutes les créations de Mildus sur l'estuaire de la Loire, c'est une œuvre pérenne qui s'ajoute à la collection permanente d'estuaires.
Et au premier plan, apparemment identique aux deux autres, mais de 15 mètres de haut seulement, une troisième cheminée réalisée par Tatsunishi. Un pavillon incongru est installé à son sommet, probablement habité comme un collage d'images qui n'auraient rien à voir ensemble. Cette maisonnette est inspirée d'un pavillon voisin et, par sa situation paradoxale, elle troque la banalité de cette architecture pavillonnaire des années 70 pour l'extraordinaire d'une situation qui la rend unique.
Gîte étape, le très boisé château de Saint-Jean-de-Boisseau invite à réécrire les contes qui sommeillent en nous. Visite guidée au détour des aménagements.
Nous allons au château du Pé. Nous traversons le parc, le très beau parc avec ses grands arbres centenaires. Nous dirigeons vers le château du Pé qui rassemble 6 œuvres, qui sont 6 chambres. Faites par des artistes, par 6 couples d'artistes. Et l'idée étant de représenter l'univers du conte de fées et en même temps que celui de l'intimité. Et dans le parc, il y a aussi une petite surprise puisqu'il y a un grand bassin dans ce parc de château, un bassin classique. Et c'est à cet endroit que s'installe l'œuvre de Jeppe Heine qui s'appelle Did I Miss Something, qui consiste en un banc. Et ce banc est situé devant le bassin et quand on s'y assoit, un jet d'eau sort du centre du bassin. Et quand on se lève, le jet d'eau s'arrête.
On est donc sur un îlot blanc, sur une mer rouge, une intervention relativement simple de la peinture sur les murs, mais qui sort là encore du cadre. On est sur... il n'y a pas de limite dans le travail d'Eva et Adèle. Elles sont elles-mêmes œuvres d'art vivantes, considérant que tout ce qu'elles font relève de l'art, elles-mêmes étant une œuvre d'art vivante.
Et elles aiment jouer sur les contrastes?
Elles aiment jouer sur ce contraste et sur cet anticonformisme. Elles en sortent complètement, elles sortent du cadre.
They incinerated, burned the roots with chemicals, vaporizing acids and robotic lasers, detonated on the ground.
Baby
Martin et Charlie Yule, donc deux artistes plasticiens basés à Nantes, londoniens, d'origine en tout cas, qui ont été très marqués par un contexte particulier dans leur vie, puisque Charlie Yule était enceinte lorsqu'ils ont travaillé sur cette chambre, et donc ils ont ici, dans la continuité de leur travail, représenté la question de la reproduction à travers la recherche de compléments d'information, vraiment comment pousser systématiquement au-delà un contenu scientifique et le donner à voir d'une manière un peu originale. Ici, ils se sont appuyés sur un bas-relief de la cheminée qu'ils ont étendu à toute la chambre. Vous avez donc toutes ces formes liées à la grande question, puisque c'est le nom de la chambre, donc celle de la reproduction. Le propos montre qu'on a l'équivalence entre à la fois le végétal, l'humain, et puis tout ce qui est l'animal également.
Point de départ, la constellation de la Grande Ourse et les quatre points cardinaux. Œuvre évolutive, le jardin étoilé de Kinyamaruyama se confronte au réel, quitte à en faire les frais.
Donc on est dans le jardin de Kinyamaruyama, qui est un architecte japonais, qui a débarqué un jour à Paimbœuf et qui s'est dit, voilà, c'est là que je veux faire mon jardin. Il n'y avait rien ici, c'était un terrain vague. Voilà, il a, avec les habitants, avec les écoles de cette petite commune, qui a deux écoles, créé ce jardin qui a subi d'abord une pollution, une petite marée noire venant de la raffinerie en face.
La raffinerie de Donge ?
La raffinerie de Donge, oui. Qui a subi ensuite la tempête Xynthia, qui a emporté la digue. L'eau est rentrée dans le jardin. Et évidemment, l'eau salée a tout brûlé. Et puis ensuite, des ados, en s'amusant, ont mis le feu à la tour des dames, qui évidemment a disparu. Et à chaque étape de ces cataclysmes différents, eh bien, on a reconstruit, on a reconstruit. Voilà, on ne voulait pas que ce jardin disparaisse. Et il est à nouveau ouvert depuis la semaine dernière. Il est beau, ça pousse et il change au fil des ans.
Cette œuvre est un peu symptomatique finalement d'Astur, avec un côté un peu sauvage, ordonné ou repensé.
Oui. Oui, on a les plantes de l'estuaire ici, la végétation de l'estuaire, le bois, et puis surtout une vue, c'est comme un balcon sur le fleuve, une vue sur le fleuve étonnante, et puis en face, cette ville, Donge, qui ressemble à New York la nuit, éclairée. Voilà, on a tous les contrastes de l'estuaire ici aussi. Les roselières, magnifiques. C'est très bizarre, c'est un endroit étrange.
Et puis, un peu en retrait.
C'est très très paisible, très paisible. Et puis on est dans une petite ville qui n'a plus la grandeur des siècles passés. Parce que c'était un avant-port, ça a été un avant-port de Nantes. Donc les armateurs, certains armateurs avaient leur hôtel particulier là, au centre de la commune. Et aujourd'hui, c'est une ville un peu fantôme.
Un peu retirée.
En même temps, très poétique, très agréable, très retirée. Et qui commence à être habité par les gens de la ville qui viennent ici se retirer.
Et cet Astur 2012, alors qu'est-ce qu'il a comme saveur ? C'est une édition particulière ?
C'est la dernière, donc elle est un peu particulière, mais en même temps, pour moi, ça continue, puisqu'on n'aura pas d'événement, on n'aura plus d'événement, on l'a décidé ainsi. On considère qu'on a une collection importante, forte, 21 sites quand même ont été investis par des artistes, mais on va continuer à créer des œuvres, bien sûr, selon les opportunités, au fil des années, selon les commandes, qu'elles soient publiques ou privées.
Oui, l'idée, c'est de passer des ponts et de transcrire un petit peu les choses dans leur globalité sur la durée.
Sur la durée, et puis aussi traiter les liaisons entre les œuvres. On a très envie de travailler sur un site pour héberger les visiteurs, un camping qui serait créé entièrement par des artistes, par exemple. Alors, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire, dès qu'on envisage d'aménager quelque chose sur ce territoire, Nantes-Saint-Nazaire, sur cette métropole, eh bien... On fait appel à des artistes, à des créateurs de toutes sortes.
Et de tous bords. Ils ne sont pas nécessairement nantais.
Pas nécessairement nantais, non, évidemment, évidemment.
Vous êtes dans quel état d'esprit avant le lancement de Voyage à Nantes ?
Toujours
c'est l'expectative ?
Oui, toujours fébrile. On attend toujours, on ne sait pas, on ne sait jamais si c'est bien, si ça va marcher, si ça va plaire. Mais oui, on sent une vibration là à Nantes quand même.
Nouvelle œuvre Estuaire 2012, le serpent d'océan joue des vertèbres avec le pont courbé de Saint-Nazaire. le squelette rejaillit de plus belle avec le rythme des marées. Il a traversé les mers jusqu'à la pointe du nez de chien.
Ici, on est à Saint-Brévin, Saint-Brévin-les-Pins, sur une pointe qui s'appelle la pointe du nez de chien, puisque cette pointe a une forme en angle droit. Et on a vraiment le sentiment géographique que d'un côté de cet angle, on est sur l'estuaire de la Loire, que de l'autre côté, on est sur le large, sur l'océan. Et l'artiste s'inscrit sur l'océan, puisque on est dans la dernière édition de la manifestation estuaire, et donc il était temps de retrouver le large. Et l'artiste se fait venir une figure mythologique énorme, gigantesque, des mers de Chine, on imagine. Il s'appelle Wang Yanping. Et donc Wang Yanping fait venir des mers de Chine un immense squelette de serpent de mer, donc une grande figure mythique, qu'il échoue comme ça sur une plage de l'Europe occidentale, une plage de l'Atlantique. Et ce squelette s'échoue exactement sur l'estran. Sa tête est posée à la limite de la marée haute et sa queue à la limite de la marée basse. C'est un squelette donc symbole de mort et en même temps il serpente, il est pris d'un mouvement de vie vraiment. Et sa gueule est béante, grande ouverte et donc signifie aussi une vie possible. Et il va devenir peu à peu avec les années havre pour la faune et la flore marine. C'est un artiste qui travaille beaucoup la question environnementale. Cette question-là, elle est centrale dans ce travail qu'il nous présente, puisqu'on n'est pas n'importe où, on est dans l'océan. L'océan, on sait qu'il souffre beaucoup. Et cette figure de mort qui rejoint la figure de vie est le message essentiel que Wang Yanping souhaite faire passer. C'est de l'aluminium, un aluminium qui résiste à l'eau salée, bien sûr, parce qu'il s'agit qu'elle dure, cette œuvre, et qui sera aussi protégée avec les années par les algues et mollusques qui vont s'y accrocher. Il y a déjà plein de photos qui ont été prises dans la gueule du serpent. C'est parti. Très souvent, les enfants se mettent dans la gueule et les parents prennent la photo pour immortaliser le moment cruel.
L'estuaire prend tout son sens à Saint-Nazaire. Direction le Life, lieu incontournable des formes émergentes. Dans l'alvéole 14 de la base sous-marine, l'architecte berlinois Finn Gaple a la folie des grandeurs.
Nous sommes dans la base sous-marine de Saint-Nazaire, dans l'alvéole 14, à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle le LIFE, le lieu international des formes émergentes. C'est un espace surdimensionné, 80 mètres de long, 20 mètres de large, 10 mètres sous plafond. Et nous sommes plongés dans l'obscurité. On entend
un bruit en sourdine.
Un bruit en sourdine, une vibration. Et du plafond semble se dessiner et descendre une forme énorme, qui est en fait une montagne inversée, une sorte de montagne ou une roche, un diamant ou peut-être un monstre, je ne sais pas, qui est suspendu au plafond et qui vient affleurer le sol. Et là, en s'approchant, on voit un petit halo de lumière. Et plus on s'approche, plus évidemment on sent le cœur de cette montagne vibrer. Et ce passage secret qui nous invite à passer, à rentrer à l'intérieur. Et là, je m'arrêterai là, puisqu'il faut venir voir.
Si ça, c'est pas du travail d'investigation.
Waouh ! Waouh, c'est cool !
Mais c'est quoi ?
C'est tout un toit, c'est tout un plafond en alu froissé, illuminé, ouais, un peu couverture de survie, et c'est comme une cathédrale, une lumière en fait, hein.
Tu rentres dans une pépite d'or.
Alors en fait, c'est une construction de bois, une charpente de bois qui vient se greffer sur le plafond technique du LIFE, qui a la particularité de pouvoir supporter des charges extrêmement importantes. C'est très rare en fait dans les lieux, dans les lieux d'expo. Surtout à cette échelle, hein, la sculpture, enfin le LIFE fait 80 mètres de long, mais la sculpture elle en fait 56. Et elle doit être à peu près à 29 tonnes. Il y a 700 panneaux, donc il y a tout un jeu de charpentes qui fait comme une sorte de nasse et de nid et qui a été fermé par des planches de contreplaqué fines pour dessiner la forme facettée, hein, un peu science-fiction, de cette montagne. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un peu penser aux coques de bateau. On a l'impression d'être sous la coque. Effectivement, ça, c'est, je pense, vraiment une réponse ou quelque chose qui est venu assez spontanément parce que le lieu lui-même provoque cette sensation d'immersion. Il l'a vu lui aussi. Puis on est à Saint-Nazaire, les bateaux, les coques, les paquebots. Enfin, il y a les gros objets, ça existe ici dans le paysage. Et puis, il y a cette idée d'une grotte. Voilà, hein, c'est un fou, il est suisse, hein. Il a vécu dans les montagnes, alors il a vécu aussi à Los Angeles, enfin il est cette espèce de très imprégné, alors il est nomade par choix, sans domicile fixe, voilà, et il vit au gré de ses chantiers, mais il est nourri de cette émotion de la montagne, de la roche, il fait beaucoup de spéléologie, il adore aller dans les grottes, et il dit la base, c'est comme une grotte, et effectivement, elle suinte comme une grotte, enfin, il y a une vie organique aussi ici, qui est très proche de ça. Donc évidemment, il s'est emparé de tous ces éléments pour loger cette espèce de chose étrange, mais qui est aussi un espace poétique, un espace mental, en même temps qu'un isoloir. Hein, c'est très important pour lui qu'il n'ait qu'une expérience. On est tout seul, et il faut quand même faire un effort, il faut se baisser, et pour à l'arrivée avoir cette émotion mêlée, hein, un petit peu inquiétante, et en même temps avec l'émerveillement de l'enfant. Hein, c'est des gens qui font un peu des cabanes aussi dans les arbres. Il y a vraiment cette émotion première de l'enfance.
Il théorise le jardin. Le paysagiste Gilles Clément campe sur le toit de la base sous-marine. Son éternel credo, faire le plus possible avec le moins possible.
La nature, elle est gérée par l'homme, elle est exploitée, les paysans avec leurs champs, la sylviculture, etc. Et donc le paysage naturel est complètement dessiné, finalement, par la main de l'homme. Or, il y a des zones où l'homme n'accède pas. Il y a des zones que l'homme décide de protéger, comme les parcs naturels par exemple. Et il y a aussi des zones dont il ne s'occupe pas, tout simplement. Donc ça peut être les talus de bord de route, les bretelles d'autoroute, les lieux inaccessibles comme ça, les sommets des montagnes, les prairies humides des estuaires, justement, etc. Et toutes ces zones-là, c'est là, bien sûr, qu'on trouve la plus grande diversité, en termes de biodiversité, justement. Et donc, c'est ce qu'il dit, finalement, les délaissés de l'homme sont la plus grande richesse potentielle de la nature. D'où ce nom de tiers paysage, et c'est la première fois qu'il part de son concept de tiers paysage pour en faire un jardin. Et donc, redonner de la vie, très simple, à une architecture guerrière. Donc là, on est dans la première partie de son projet, qu'il a réalisé en 2009. Et à l'occasion de cette édition, il a réalisé deux autres jardins qu'on va aller voir. C'est la deuxième partie du triptyque du jardin du tiers-paysage. En effet, le jardin des orpins et des graminées, où Gilles Clément, comme à son habitude, il souhaite faire avec la nature et non pas contre. Et donc, il a convié sur cette architecture hostile des plantes, donc de la famille des orpins et des graminées, qui résistent très facilement à des conditions difficiles, qui nécessitent très peu d'entretien. C'est toujours son leitmotiv, ça. Faire le plus avec et le moins contre. Et il a donc planté dans ses travées, dans ses petites travées de béton, dans cet univers très brut, hein, on a du béton armé partout, des traverses d'acier rouillé. Et bien tout d'un coup, la vie reprend ses droits. Il a fait traverser les portes de ses travées par un petit canal pour justement insister sur la perspective de ces portes qu'on peut voir au niveau de l'eau. Donc d'autres points de vue. Et il a aménagé cette passerelle qui, encore une fois, est un autre point de vue. Donc, son projet, c'est aussi une déambulation. Puisque de cette passerelle, on peut voir le bois des Trembles comme on ne le voit pas d'ailleurs. On peut voir aussi le contraste entre l'estuaire de la Loire et la ville de Saint-Nazaire qu'on voit.
Nous voilà au Grand Café. Saint-Nazaire et ses chantiers usent et abusent des matériaux. Deux artistes, Séverine Hubbard et Vincent Ganivet, investissent le lieu pour créer des œuvres renversantes. L'équilibre des contraires implante son chantier, des produits manufacturés et des logiques constructives. Vincent Ganivet et son installation investissent le Grand Café.
Pas de titre particulier, ça appartient à une série que j'appelle des caténaires. Les caténaires, autrement que ces câbles qui soutiennent les alimentations des trains, un système que je détourne. Comme je détourne le matériel qu'il constitue, les parpaings, que j'aime mettre de travers en quelque sorte. J'aime dire qu'ils ne sont pas posés droit. Voilà. Alors bien sûr, il y a de la virtuosité, il y a une pratique, il y a des connaissances derrière tout ça, mais ce qui m'intéresse à la base, c'est surtout de mettre les choses de travers, de jouer du contre-emploi.
Bâtisse karstique. Des stalactites dans une bâtisse baroque construite au XVIIIe siècle par l'architecte Pierre Rousseau, Baptiste Timonet et Vincent Joussaume soulignent tous deux l'élégance du lieu. Le temple du goût, refaçonné, s'apparente désormais à une grotte artificielle où le goutte à goutte, dans un jeu de superposition de céramique, jouxte la verrerie du stalactite bar, où huîtres et vin blanc se dégustent parfois.
Vous imaginez bien que la création d'une grotte, le processus chimique et naturel, ça prend énormément de temps. On voulait aussi ce décalage-là, qui est, je pense, intensifié par le peu de luminosité, par le bruit de l'eau, etc., le goutte à goutte. Donc on voulait quelque chose un peu en dehors du réel, à côté, un peu une autre dimension.
Et les matériaux, là, c'est quoi?
C'est de la céramique. Toutes les pièces sont en céramique, excepté le verre. Mais en fait, nous, on travaille principalement la céramique. Vous l'aurez peut-être vu, vous allez peut-être le voir, il y a plein. L'installation est parsemée de petites mises en abîme de cette installation même. Et l'huître, pour nous, c'était aussi important parce qu'on est dans cette même problématique de cavité. Et l'huître aussi, ça évoque l'eau et ça évoque la mer. Vous avez sans doute vu la fontaine, qu'on entend aussi. Il y a aussi le goutte à goutte, qui est effectivement effectif, mais plus discret. C'est vraiment l'eau qui fait le lien entre toutes les pièces de l'installation, comme l'eau, de toute façon, génère naturellement les grottes. Et voilà, c'était aussi pour un parallèle avec le terrain marécageux et puis l'île Feydeau, qui n'est plus une île, mais qui a conservé son nom. Donc voilà, on a voulu mettre tout ça dans cette même exposition.
Monte-meuble, l'ultime déménagement. L'image transcrit l'impossible, la place bouffée, théâtre d'une surprenante installation. Une portion de façade suspendue dans les airs s'offre au regard et sème le doute. L'artiste argentin Leandro Erlich interroge notre perception du réel et crée la surprise.
C'est un monte meuble qui semble être posé sur un morceau de façade. On voit en fait que toute la partie bas du bâtiment n'existe plus, qui est partie. Mais on regarde le mobilier qui descend pour le monte-charge. Donc voilà, c'est une image qui pourrait être onirique, surtout impossible. Et je trouve que chaque manifestation qui fait appel à l'impossibilité, mais qu'on arrive à construire une impossibilité, je trouve ça une idée très optimiste. C'est une manière de manifester aussi qu'on peut arriver à réussir à les challenges qu'on trouve dans la vie, en fait. Pour la façade, j'essayais de trouver un point commun pour que la façade ressemble à un bâtiment qui probablement pourrait être dans cet endroit. Et en fait, je ne savais pas tout au début du projet, mais il y a eu un bâtiment là, en fait, un peu plus loin, mais il y a eu un immeuble qui fermait la place. C'est construit l'escalier, c'est en acier, évidemment, et à l'intérieur de la façade, évidemment, c'est pas de la pierre, c'est de la fibre verte, et il y a une structure métallique. L'escalier s'est attaché à cette structure métallique, et voilà, c'est ça. Donc c'est une structure, la maison, c'est une structure assez légère. Même si c'est légère, doit être 1700 kilos, donc ce n'est pas non plus super légère, mais voilà.
Vous avez fait des calculs savants pour la faire tenir?
Oui, il y a eu une équipe d'ingénieurs qui font partie d'une société qui s'appelle La Machine, qui fait pas mal de projets fous à Nantes, mais même pour eux, qui sont habitués à travailler dans des projets difficiles, ça restait un projet extrêmement difficile, je dirais. Même un jour avant, je dirais avant-hier, seulement avant-hier, on a arrivé à avoir les permis de la commission de la ville qui garantit les conditions de sécurité. Oui.
En cas d'intempérie, ça résiste?
On verra. Oui, j'espère, oui. Mais là, on est dans l'espace public. Ça nous permettrait d'être à tous. Ce n'est pas un espace protégé pour l'artiste. Je pense que ça fait partie de mes histoires. Je suis grandi dans une famille d'architectes et pour moi, l'architecture n'a été jamais un sujet d'intérêt dans le sens de la fonction, mais a été toujours un sujet d'intérêt dans le sens dans lequel l'architecture fait partie de notre vie et devient l'architecture un élément très, très protagoniste dans notre histoire, en fait.
L'arbre à basket. À deux pas des machines de Lille, les amateurs de basket sont conviés à réinventer les règles du jeu. Autour des paniers montés en arborescence. Les joueurs se démultiplient et les âges aussi. L'arbre offre autant de possibilités que de participations inédites.
Celui-ci est pérenne. Il s'implante définitivement sur le parc des chantiers. C'est une installation de l'agence Alta, une agence installée entre Paris et Rennes, qui a donc réalisé cet arbre à basket, avec des règles à réinventer, bien sûr. Et on va avancer maintenant vers le carrousel des mondes marins.
Le carrousel des mondes marins. Les abysses et la surface des océans repeuplent le site des anciens chantiers navals. Sur trois plateaux tournants, la structure est imposante et l'implantation de ce cinquième manège construit par la machine intrigue les visiteurs. 25 mètres de haut, 20 mètres de diamètre, 35 créatures sous-marines, dont la remanta, le calamar à rétropropulsion, le poisson pirate, la larve de crabe. Le passager, une fois à bord, est plongé dans une conception qui n'est pas sans rappeler les manèges de la fin du 19e.
On va faire une visite rapide des mondes marins. Là, on est sur le parvis du carrousel des mondes marins. Ah oui, on va peut-être se présenter. Alors.
Donc, François Delorosière, co-auteur avec Pierre de cette aventure Les Machines de l'île de Nantes et directeur artistique de la compagnie La Machine.
Alors Pierre Fils, co-auteur des Machines de l'île et directeur d'exploitation des machines. Voilà. L'entrée est là, la billetterie est là. On est à 4 semaines de l'ouverture. Les frontons viennent d'être posés au sommet du monde marin autour du chapiteau. C'est un artiste marseillais qui nous accompagne depuis longtemps, un illustrateur, Stéphane Mintaner, qui a fait tous les visuels. C'est lui qui fait nos affiches depuis 5 ans. Voilà, il y a différents mondes des mers chaudes et des mers froides, qui entourent le carrousel avec des pêcheurs de tous les océans du monde qui séparent toutes les images, qui sont un peu les gardiens de ce carrousel. Ici, sur la droite, vous avez l'embarcadère de l'éléphant. C'est l'éléphant qui fera un lien physique entre... le carrousel est le cœur du dispositif qui est l'atelier de la compagnie de la machine et la galerie. Et à chaque voyage, il déposera 50 passagers, 50 autres monterons. Et il arque ses amarres comme un navire et il reprend sa piste pour continuer ses voyages. Voilà. Donc tous les jours, 4 fois par jour, il viendra s'amarrer au carrousel des mondes marins. On va monter au deuxième niveau, par la gauche. Vous répartirez sur la coursive à 360 degrés. On vous donnera quelques éléments d'explication tous les deux. Et après, on montera au dernier niveau, voilà, où vous aurez une vue sur le site des machines, la Loire et le quai de la Foire.
Donc, vous allez visiter un chantier, hein, puisqu'on n'ouvrira que le 15 juillet au public. Et on ne fera pas tourner le manège, parce qu'il n'est pas encore tout à fait au point, mais on est en train de le mettre au point. Il y a 32 éléments, 78 places environ, et l'édifice peut accueillir 300 personnes en même temps. On va monter au deuxième niveau, au niveau des abysses.
Ici, on est sous le niveau de la mer, mais sous la mer, en bas, ce sont les fonds marins. Et à ce niveau-là, c'est le niveau qu'on appelle le niveau des abysses. Et au-dessus de nous, c'est la surface de la mer. Le plateau d'en bas et les éléments suspendus ont tourné en même temps. Les poissons qui sont rassemblés, tous les éléments qui sont rassemblés sur le plateau d'en bas sont censés vivre sur les fonds marins. Et ici, au niveau des abysses, il y a le luminaire des grands fonds, le bus abyssal, poisson pirate, l'âge d'argent. En face de moi, c'est la larve de crabe et la remanta.
Voilà, le public embarque dans le véhément par des parcelles, il y a 6 parcelles qui se replient au départ du tour et les deux niveaux tournent en même temps. Ce niveau-là est réservé aux enfants de plus de 10 ans, il y aura une pige. Si les enfants sont trop petits, en dessous de la pige, ils ne pourront pas embarquer. Donc on dit souvent que c'est un manège pour adultes dans lequel les enfants peuvent embarquer. À ces niveaux-là, il y a une restriction, c'est un problème de sécurité et d'ergonomie par rapport aux machines.
Alors là, vous êtes au niveau de la mer, à la surface. Il y a 34 places ici.
Il symbolise quoi pour vous ce carrousel ?
Hein, il symbolise ? Oh, c'est une espèce de dommage à la mer, quoi, puisque on s'inspire des animaux des grandes profondeurs, on s'inspire de la vie sous-marine, du monde de la mer. Surtout, on est là sur la voie la plus maritime de Nantes. Donc, on est vraiment là où se construisaient les bateaux, où arrivaient les bateaux avec les marchandises, repartaient les bateaux, les grandes aventures. Donc, c'est une espèce de, ouais, d'hymne à la mer, mais aussi au lieu et à son passé, quoi. Et puis, c'est aussi un belvédère magnifique pour voir le projet urbain en cours de marche.
Il a été pensé depuis combien de temps ?
On a commencé en 2001 les premières esquisses. Ça fait 12 ans.
Alors, si vous voulez monter là-haut, c'est par 4 simplement. Mais en haut, c'est un accès en fait à une vigie. Et on a une vue à 25 mètres sur le territoire.
À 360
mètres. C'est sympa, mais il n'y a pas plus de 4 à la fois. Il y a un phare. On a des objets très différents, comme le carrosse caudal qui va monter d'1,50 m environ, tiré par ces poissons volants, ou les bicyclettes qui sont assez drôles parce qu'on pédale, on avance sur le rail et puis on met en mouvement l'objet. Des mouvements travaillés, tous ces objets sont vraiment très mobiles dans tous les sens, comme la tête de la tortue à long cou, ou le poisson volant qui s'élève de 2 mètres dans les airs. Donc, on fera un voyage assez incroyable avec un des plus beaux paysages de Nantes à 360 degrés et avec un jeu de regard, le public nous verra et on verra la ville en train de se construire.